Radio Kapi.
Oh Kapi. Pascal Masirika à la présentation du journal.
À la une de l'actualité ce soir, 11 jours après, 1395 enfants se sont séparés de leurs parents lorsqu'ils fuyaient la menace du volcan Nyiragongo à Goma. Jusqu'hier, au moins 765 enfants ont été réunifiés avec leur famille. Drame à Mokambo, dans la province du Haut-Katanga. Deux élèves sont morts ce matin après l'écroulement de la charpente de leur salle de classe. La société civile de Sakania précise que cette école, construite à l'époque coloniale, n'a jamais été réhabilitée. Notre invité, c'est le commandant de la force terrestre des FARDC en mission à Beni au Nord Kivu. Le général Falsi Kabwe parle des attaques des rebelles ougandais de l'ADF contre les civils. Il évoque aussi la collaboration entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO pour y faire face. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, 11 jours après, 1395 enfants sont enregistrés comme séparés de leurs parents pendant qu'ils fouillaient la menace de l'éruption volcanique de Nyiragongo. C'est ce qu'indique la responsable de la division provinciale des affaires sociales au Nord Kivu sur la base du rapport compilé de tous les partenaires de la protection de l'enfant. Madame Domitil Roussimbuka affirme que jusqu'aujourd'hui, au moins 765 enfants ont été réunifiés avec leurs familles respectives et que l'encadrement des autres se poursuit normalement. Il est au micro de Bernard Nanyangi.
Jusqu'à la date d'hier, sans pouvoir y inclure ceux-là qui ont pris fuite vers l'axe Goma-Rutshuru, vers le Grand Nord, ceux qui ont pris l'axe Sake, vers le sud de Kivu, Sake, vers le Masisi Centre. Ceux-là qui ont déjà été identifiés, les 1395, 765 ont déjà retrouvé leur famille et on les a déjà réunifiés. Ceux-là qui n'ont pas encore retrouvé leur famille, nous les avons mis dans les centres d'accueil transitoire et dans les familles d'accueil. Dans les centres, nous avons 240 enfants. Donc, 89 filles et 151 garçons. Ici à Goma, il y a 4 centres qui sont identifiés pour accueillir ces enfants.
J'ajoute que la division provinciale des affaires sociales du Nord Kivu a réuni ce mardi à Goma une dizaine d'organisations partenaires, dont la MONUSCO et l'UNICEF. C'était pour coordonner la prise en charge et la réunification des autres enfants non accompagnés. Nord Kivu encore, la situation demeure préoccupante dans la région de Sake, située à 30 km de la ville de Goma, en territoire de Masisi. L'assistance apportée jusqu'ici par le gouvernement et les humanitaires ne suffit pas encore pour environ 60 000 déplacés. Les autorités locales affirment que des personnes sans abri n'ont pas d'eau potable et à manger. Selon nos sources, un centre de traitement de choléra est déjà installé à Sake pour parer à toute éventualité. Pour en parler, retrouvons à Goma Sifa Maguru.
D'après le chef de groupement Camerons à des Sake, en dépit des interventions du gouvernement, du PAM, le MSF, l'UNICEF et autres qui apportent de l'eau, des vivres et médicaments, les besoins sont toujours accrus et les conditions de vie des déplacés ne sont pas satisfaisantes. Mwami Bauma Bitibu craint l'apparition des maladies hydriques, notamment le choléra.
Il y a un total de 63 951. Les conditions dans lesquelles ils vivent, ce ne sont pas vraiment de bonnes conditions. Vous voyez l'apport de l'UNICEF, nous avons aussi reçu l'aide du gouvernement pour l'eau et la nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi les problèmes d'abri, parce que beaucoup de gens n'ont pas où s'abriter. Il y a PAM qui a commencé à distribuer, mais le vivre qu'il donne n'est pas vraiment suffisant et tout le monde n'est pas encore servi.
Pour sa part, le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu reconnaît la précarité de la situation. Janvier Kubuya ne confirme pas encore l'existence du choléra à Sake, mais il évoque des cas suspects ainsi que des maladies diarrhéiques relevées au centre de santé de Kimoka, Kaduki et Sake dans la zone de santé de Kirochi. Il ajoute que ces structures enregistrent depuis l'arrivée des déplacés une forte fréquentation des malades souffrant du paludisme et des infections respiratoires. Depuis Bukavu, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ces temps, la régie des eaux a rétabli hier lundi l'eau potable dans 8 quartiers au nord de la ville de Goma. La lave du volcan Nyiragongo avait enseveli la tuyauterie de cette entreprise d'État. Le directeur de la régie des eaux indique que ce rétablissement est le résultat des efforts du gouvernement et de plusieurs partenaires. Le point de la situation avec vous, Bernard Nanyangi.
C'est près de 500 000 habitants des quartiers Mabanga Nord, Virunga, Katoi, Kasika, Majengo, Bujovu, Kaembe et Turunga au nord de Goma qui voient l'eau couler à nouveau à leur robinet. Cela grâce à ce projet d'urgence mis en place par la Régie des eaux avec l'appui du gouvernement congolais et différents partenaires dont l'UNICEF, dit le directeur provincial de la Régie des eaux, David Angoyo.
On a bravé les tremblements des terres pour répondre promptement au rétablissement de la desserte en eau potable dans la zone qui était affectée. Nous avons fait un bilan au lendemain de l'éruption. Il y a 8 quartiers aujourd'hui qui sont alimentés à travers un dispositif ingénieux qui s'appelle Bypass. C'est un système technique qui a mis un contournement pour nous permettre de démarrer la station de repompage et pomper directement dans les réseaux.
Signalons qu'en attendant la réhabilitation de tout le réseau englouti par la lave, le CICR approvisionne par camion les bornes fontaines des villages Bouchara et Mounigui en territoire de Nyiragongo. L'ISSN Penvi a aussi promis de fournir 1300 mètres de tuyaux d'une valeur d'environ 400 000 dollars américains. C'est pour réhabiliter la tuyauterie de la conduite menant vers les grands réservoirs de 6000 mètres cubes d'eau engloutis par la lave au niveau de Bouchara. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Et puis, l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, a enregistré hier lundi 71 tremblements de terre autour du volcan Nyiragongo. Le rapport quotidien de suivi qui a été dressé ce mardi matin par le porte-parole de la cellule des crises indique que la majorité des mouvements sismiques observés n'ont pas été ressentis par la population locale. N'est-ce pas, Bernard Dengangi?
La cellule provinciale de crise dit avoir noté tout de même une légère baisse de la sismicité par rapport au rapport d'hier lundi. Son porte-parole précise que les autorités provinciales du Nord Kivu demandent à la population de rester vigilante. Major Njiki Kaiko.
Une légère baisse de la sismicité a été observée comparativement à la journée d'hier. Cependant, le danger est permanent. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante, à l'écoute des informations et d'observer strictement les mesures arrêtées par les autorités provinciales. Nous demeurons toujours dans la phase rouge.
Rappelons que dans le rapport humanitaire publié ce mardi, OCHA indique que le moniteur sismique du Rwanda a enregistré le 30 mai à 23h13 une secousse qui a atteint une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Sachons tirer des leçons et nous préparer en conséquence. Déclaration faite ce mardi ici à Kinshasa par le président du Conseil économique et social à la fin de la session ordinaire d'avril. Jean-Pierre Kiwakana affirme que l'éruption volcanique de Nyiragongo au Nord Kivu appelle tout le monde à une réflexion sur ce qu'il faut mener comme action à court, moyen et long terme pour une gestion efficace et efficiente de cette question. Il a par ailleurs souligné qu'au-delà de cette session budgétaire, cette institution consultative s'est penchée également sur d'autres matières. Il évoque ici l'aspect lié au volcan Nyiragongo dans ses propos recueillis par Alain Rungmouchij.
Le volcan Nyiragongo est un volcan extrêmement dangereux. Il est l'un des deux volcans encore en activité de la chaîne de Virunga en RDC. Ce stratovolcan abrite le plus grand lac de lave permanent au monde. Sa dangerosité est due aux coulées de lave extrêmement rapides qu'il génère. Ces récentes catastrophes désolantes appellent à une réflexion sur ce qu'il convient de mener comme action à court, moyen et long terme. Avant 12 mois et long terme, avant entre 1 et 5 ans, pour répondre positivement aux besoins imminents des populations, mais aussi pour s'engager dans un processus de résilience coordonné et encadré en vue d'espérer d'arriver à des changements palpables dans cet environnement mis à rude épreuve depuis des décennies. Force nous est de constater, l'éruption de ces volcans était prévisible. Dès lors, une question légitime, pourquoi réagissons-nous comme si cela était une surprise? Sachons tirer des leçons et nous préparer en conséquence.
On en vient maintenant à ces drames survenus à Mokambo, dans le territoire de Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Deux élèves sont morts ce mardi matin après l'écroulement de la charpente de leur salle de classe. La nouvelle est confirmée à Radio Kapi par Jean-Claude Ilunga, le chef de cette entité. Et le coordonnateur de la société civile de Sakania précise que cette école, construite à l'époque coloniale, n'a jamais été réhabilitée et présente des fissures. Il a été joint par Jean Gandou.
Ce matin, à 7h30, les élèves étaient alignés pour entrer dans leurs classes respectives. Les piliers qui soutiennent la charpente ont cédé. Et il y a eu la mort de deux élèves de la première année primaire. Les autres sont à l'hôpital. On a amené le cadavre au niveau de la police et les familles sont venues récupérer leurs enfants. Donc la situation est alarmante au niveau de Mokambo actuellement. Donc c'est une école catholique datée depuis l'époque coloniale qui n'a jamais eu une réfection. Voilà, aujourd'hui nous déplorons la mort de ces deux enfants innocents. La police et le militaire en place ont essayé de calmer la situation. Ils entourent maintenant toute l'école pour la sécurité de l'école. Et puis le directeur est attendu auprès d'un magistrat sous l'ordre du procureur de la place.
Revenons un instant au Nord Kivu où le vice-président de la société civile alerte sur la présence d'hommes armés inconnus qui sèment terreur et désolation dans la région du Graben en chefferie de Bachou, territoire de Beni. Edgar Mateso redoute qu'il s'agisse des rebelles ougandais de l'ADF qui veulent se réorganiser. Il invite par conséquent les FRDC à traquer ces inciviques. Il est au micro de Grâce Amzati.
La société civile a peur de ce qui se passe dans le Graben. Nous craignons que ça ne soit une réorganisation des positions des ADF parce qu'ils ont toujours utilisé la vallée de Moualika comme une arrière-base. Avant le début de l'état de siège, ils utilisaient cette zone pour se ravitailler soit à Butembo, soit à Kassindi, soit alors à partir du lac Édouard. Nous pensons que l'armée devra se renseigner sur ces mouvements suspects qui se trouvent dans la vallée du Graben afin de couper une sorte de liaison qui existerait entre ceux qui se trouvent dans le triangle de la mort, c'est-à-dire du côté de Rwenzori et du côté de Benimbau et de Watalinga. Et couper justement cette communication permettrait à ce que l'armée maîtrise le mouvement de ces ADF. La population doit continuer à être vigilante et surtout rapporter toutes ces informations dont elle dispose au service de sécurité.
Tous nos efforts pour avoir la réaction des FARDC à ces sujets n'ont pas abouti. Toutefois, à propos de l'insécurité dans la chefferie de Bachou, le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord avait indiqué à Radio Kapi récemment que des dispositions étaient prises pour mettre ces inciviques hors d'état de nuire. Bientôt, la relance de la culture de la pomme de terre dans le territoire de Manzangungu en arrêt, voici 2 ans, après avoir perdu 20 tonnes de semences venues d'Europe suite aux inondations de 2019, les producteurs viennent de recevoir 25 tonnes de semences de différentes variétés. Annonce faite par le coordonnateur de l'ONG dénommé Bien-être pour tous, qui regroupe en son sein les producteurs de la pomme de terre de ce coin de la province du Congo central. Amatadi Nana Plurich Mambou.
Les producteurs de pommes de terre, membres de l'ONG Bien-être pour tous, ont cotisé durant 2 ans pour importer vers la France les 25 tonnes de semences. L'objectif étant de suppléer à la perte subie de plus de 400 tonnes de pommes de terre issues des 20 tonnes de semences provenant de l'Europe qu'ils ont connues suite aux inondations survenues en novembre 2019. Malgré l'arrêt de la production et toutes les difficultés financières qui en découlent, les producteurs de pommes de terre regrettent d'avoir réalisé les opérations de dédouanement de ces 25 tonnes au port de Matadi sans bénéficier d'une exonération. Ce lot de 25 tonnes de semences est constitué de 7 variétés, dont 3 pour les semis et 4 pour les essais variétaux, comme l'explique Bruno Kichanga, coordonnateur de cette structure.
Nous ne faisons pas que la production, nous faisons aussi la recherche et développement. C'est comme ça que nous avons eu cette année 4 nouvelles variétés de petite quantité pour essayer d'analyser d'autres nouvelles variétés, comment ils se comportent dans l'environnement de Manzangungu.
Malgré les programmes d'action prioritaire du nouveau gouvernement visant l'élimination de la pauvreté via l'agriculture, ces producteurs s'étonnent étonnent de ne pas être écoutés malgré leur cri d'alarme lancé en direction aussi bien des décideurs que des partenaires. Pour l'heure, les consommateurs recourent à la pomme de terre surgelée importée qui est vendue à un prix élevé en attendant la moisson en septembre des pommes de terre produites localement. Matadi, Nana Plirich Mambou, Radio Okapi.
L'invité. Notre invité, c'est le commandant de la force terrestre des FARDC en mission à Beni au Nord Kivu. Le lieutenant général Fall Sikabwe s'exprime sur la situation qui prévaut actuellement à Beni et à Djougou. Une situation marquée par des attaques de rebelles ougandais de l'ADF contre les civils. Il évoque également la collaboration entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO pour faire face à la situation. Il s'entretient avec Martial Papi Moukeba.
Général Fall Sikabwe, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pouvons-nous savoir l'objet de votre visite dans la région de Beni?
Oui, l'objet de ma visite, c'est une visite de travail. Je suis venu en visite de travail, d'inspection de nos capacités, parce que nous avons l'intention de remonter, rehausser le plus rapidement possible nos capacités opérationnelles pour permettre aux commandants des opérations d'être à la hauteur du défi que nous avons, surtout avec la situation de l'état de siège dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Donc nous devons nécessairement concrétiser cela par des actions palpables.
Vous êtes accompagné par le général Puntela Berthe, nommé il y a une vingtaine de jours comme nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Quand est-ce qu'il va prendre ses fonctions?
Je suis venu avec lui, c'est pour ça, pour qu'il prenne ses fonctions. Son arrivée ici, c'est juste donc, une précursion dans le sens que derrière lui, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui sont en train de venir. Donc notre objectif, c'est de relever les troupes qui sont fatiguées, donc qui ont subi donc un état assez élevé d'attrition. Nous allons les relever au fur et à mesure. Lui, c'est juste donc le premier pas, et vous verrez par la suite que nous allons amener de nouveaux visages.
Vous venez de discuter avec les commandants de la brigade d'intervention de la MONUSCO. À quoi ont consisté vos échanges?
Ouais, nos échanges ont porté d'abord sur la fraternité, ça c'est une très bonne chose, et aussi sur les opérations, mais malheureusement, je ne parlerai pas des opérations devant le micro.
Est-ce qu'on peut dire que vous pensez à des opérations conjointes FARDC casque blé contre les ADF?
Oui, c'est ça l'objet de notre présence ici dans les installations de la MONUSCO. Nous travaillons déjà ensemble dans des joint operations, mais nous sommes obligés d'élargir encore cela davantage. Donc, de porter à ces joint operations une ampleur assez plus grande que celle d'avant pour qu'on ait des résultats palpables sur le terrain.
En qualité de commandant force terrestre et des FARDC, comment vous évaluez la collaboration sur terrain entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO?
La collaboration sur terrain entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO a toujours été très très bonne. Ce que j'ai toujours remarqué, ce que j'ai aussi relevé dans notre petite réunion, c'est que chaque fois que cette collaboration sera à son top, eh bien, il y aura toujours quelques tireurs de ficelle à gauche et à droite qui vont essayer de décourager cette collaboration, soit en s'attaquant à la population civile pour dire que la MONUSCO et les FARDC ne foutent rien, soit en s'attaquant directement à la MONUSCO, les diviser avec les FARDC. Donc il y a toujours des petits coups bas comme cela, mais les relations entre les deux institutions sont au beau fixe.
La dernière question, la nuit dernière, au moins une cinquantaine de civils ont été tués par les ADF en Ituri. La société civile parle d'une quarantaine d'autres civils tués la semaine dernière dans le secteur de Rwenzori à Beni. Au niveau de l'état-major général des FARDC, je parle de niveau stratégique. Comment vous analysez cette situation et l'activisme des ADF dans le Nord Kivu et en Ituri?
Ça a été une partie des échanges avec nos partenaires de la MONUSCO. Nous avons d'abord commencé par relever les failles de notre côté. Quelles sont les failles qui ont conduit à ce qu'il y ait ces tueries? Nous avons repéré les failles et nous avons fait des propositions pour remédier à ces failles le plus rapidement. Je pense que d'ici demain déjà, nous avons des solutions qui seront déjà donc mises en branle.
On peut s'attendre à une réaction robuste des FARDC?
Je ne parlerai pas des opérations directement comme ça donc, au micro, mais wait and see.
Général Fall Sikabwe, merci.
Je vous en remercie.
L'invité de Radio Okapi, c'était le commandant de la force terrestre des FARDC en mission à Beni. Le lieutenant général Fall Sikabwe s'exprimait sur la situation qui prévoit Beni et à Djougou, marquée par les attaques de rebelles ougandais de l'ADF contre les civils. Il a été interviewé par Marc Martial Papi Moukeba. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20.